Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Le 17 décembre prochain aura lieu dans les rues de Strasbourg une chasse au trésor, la course au magnum. Je vais cacher dans les rues de Strasbourg 1, 2 ou 3 magnums que vous pourrez gagner et mettre sur votre table des fêtes de fin d'année à Noël ou à Nouvel An à partager avec vos amis ou votre famille. Pour vous inscrire, rien de plus simple, duraisinetdespapilles.com, les réseaux sociaux du raisin et des papilles, ou tout simplement vous m'envoyez un mail, mikael@duraisinetdespapilles.com. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations en description de l'épisode du podcast. D'ailleurs, qui dit podcast dit générique. On lance le générique et on se retrouve tout de suite avec l'épisode du jour. Est-ce qu'il t'...
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Voilà. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Salut Yann.
Salut Mickaël.
Merci de nous accueillir chez toi. Salut Adrien.
Salut Mickaël. Salut Yann. Merci de nous recevoir avec le sourire, effectivement.
Moi, j'ai grandi dans une famille de vignerons. Donc, j'ai toujours vu mes parents travailler dans les vignes, accueillir des clients à la cave. Même si je n'ai pas été spécialement poussé par mes parents à le faire, ça m'a paru depuis tout petit naturel de vouloir poursuivre dans cette voie. Quand j'étais enfant, dès que j'ai pu, j'ai essayé de tenir un sécateur comme ma mère, par exemple. C'était vraiment une attirance par imitation.
D'accord.
Et j'ai aucun regret, dans le sens où c'est un métier qui est très complet.
Mm-hmm.
On ne s'ennuie jamais. Même quand on pense avoir compris quelque chose, finalement, le millésime suivant nous refait remettre en question nos positions. C'est toujours une grande leçon d'humilité de la viticulture. Donc j'ai fait un BTS viticole par apprentissage, parce qu'après le bac, j'avais vraiment envie de travailler manuellement.
Tu étais mon élève ?
Alors, oui, dans le sens où j'ai plutôt des bonnes notes,
ouais.
Mais j'étais pas un élève appliqué, quoi.
D'accord, disons que tu préférais être dans les vignes qu'à l'école, quoi.
Tout à fait. Ben, en fait, au bac, mes profs auraient aimé que j'aille faire une prépa, une école d'art, chose comme ça, quoi.
Ouais.
Et ils ont été quand même sacrément douchés quand ils m'ont dit que non, moi je vais devenir apprenti.
D'accord.
C'était une très bonne expérience. Je pense que j'ai bien plus appris par la pratique en tant qu'apprenti que sur les bancs scolaires. Alors, c'est dans ce BTS que j'ai rencontré Florian.
D'accord, salut Florian.
Et ensuite, on a fait tous les deux une licence de commerce. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an comme ouvrier viticole, comme salarié.
Mm-hmm.
Et ensuite, je me suis installé sur le domaine familial.
En quelle année ?
L'instant 2010. En fait, au début, j'avais repris juste 2 hectares. Et puis, je travaillais un peu en parallèle de mes parents. Et puis maintenant, on a remis tout ça ensemble, quoi. Et depuis maintenant 2 ans, Et le domaine familial.
Est-ce qu'en BTS, ils sont assez ouverts sur vos méthodes de viticulture ou est-ce que tu as senti que tu apprenais des choses que tu n'allais pas forcément appliquer et qu'ils étaient assez réticents, tes professeurs ?
Alors, c'est un diplôme national, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas du tout. Hein, mais pour autant, il faut dire qu'en Alsace, on a toujours été assez en avance sur le bio. Et puis, dans le centre de formation où j'étais, on avait aussi un module agriculture biologique. Ce qui n'est pas commun, quoi, pour une formation il y a 10 ans déjà. Et de ce fait-là, les formateurs étaient, assez ouverts d'esprit, vraiment. Autant, ils ne poussaient pas spécialement à inciter les gens à aller vers le bio, autant ils respectaient tout à fait cette pratique et ça s'est bien passé. Alors, pour compléter, faut dire que je fais des stages à l'étranger, je suis en Angleterre, dans le cadre de ma licence de commerce. Après tout ça, je suis quand même un peu sur ma faim, je suis quand même peu curieux, donc je continue des études, mais à distance. J'ai fait une licence d'économie à distance, après un master 1 d'économie à distance, et j'ai fini en bouclant là, mon master 2 à Strasbourg, mais du coup en formation, continue une formation pour adultes.
D'accord.
Parce qu'en formation à distance, qu'on est quand même tout seul derrière son bouquin,
c'est un peu compliqué.
Au bout d'un moment, on touche un peu les limites de faire tout soi-même, quoi.
Et pour la productivité à la maison, c'est pas compliqué.
Mais après, quand on est travailleur indépendant, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein.
De toute façon, c'est une motivation, quoi. Du coup, t'as fini tes études dernièrement, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Il y a 2 ans, là, j'ai décroché.
C'est quelque chose que tu voulais par rapport à ton métier de vigneron. Ça t'apporte quelque chose sur l'économie, c'est ça ?
Oui, alors c'est une grande réflexion sur le vin en tant que produit. Qu'est-ce qui fait que les gens vont être attirés ou pas vers des vins. Au-delà de l'intérêt pour le développement d'entreprise, c'est plus une réflexion en général sur l'évolution du vin dans la société actuellement. Les critères de qualité du vin ont beaucoup changé et les vins qui se vendaient bien il y a 10 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça peut être
D'accord.
pas les mêmes que demain.
Oui.
Les gens n'ont plus tous les mêmes attentes et le marché du vin est vraiment...
En 10 ans, tu as vu cette évolution déjà ?
Ouais, oui.
Là, on est sur l'évolution du consommateur, je pense qu'on allait y venir, mais...
De toute façon, le consommateur, c'est lui qui choisit où il
passe, hein,
quels que soient les labels, quelles que soient les mentions, quelles que soient les appellations. C'est le consommateur qui a le dernier.
Ce que disait Aznavour, hein, c'est le public qui nous fait. Mais pour les vignerons, c'est un petit peu pareil, c'est le consommateur qui vous fait.
C'est vrai que le vignoble, je pense que, en manière générale, hein, pas que l'Alsace, on était un peu trop sur les appellations, sur les traditions, on se reposait là-dessus en disant que de toute façon, c'est toujours fait, donc ça marchera toujours. Et sans vouloir renier cette histoire, cette tradition, je pense qu'il faut remettre le consommateur au milieu du jeu et lui parler de choses qu'il sait comprendre et qui l'intéresse.
De toute façon, c'est un peu la demande qu'il a, le consommateur, en 2020. Je travaille dans un magasin bio, donc je suis bien placé pour savoir qu'il a envie d'être maître de sa propre consommation, puisque moi, j'en vois beaucoup qui passent des heures derrière à regarder les étiquettes, à savoir l'origine, c'est devenu important. Mais c'est très bien, hein, finalement, au final, c'est ça. Mais justement, toi, alors si tu devais te définir, parce que les gens aiment bien être dans un cadre, tu es plutôt bio, biodynamie, nature, où est-ce qu'on te place ? Où est-ce que tu te places et est-ce que tu as envie d'être placé déjà ? Parce que tu es un peu libre comme bonhomme, donc.
Ouais, je touche un peu à plusieurs domaines, donc je suis dur à placer. Alors, c'est sûr que. On a toujours été, j'ai toujours travaillé en bio, parce que mes parents qui ont passé le domaine en bio avant que je vienne travailler avec eux. Donc pour moi, c'était quelque chose de spontané, de tout à fait normal de poursuivre dans cette voie.
Okay.
Donc c'est vrai que le challenge qu'ont des collègues actuellement de devoir éventuellement, de devoir changer leur pratique, faire une transition vers le bio, c'est vraiment un gros challenge de changer ses habitudes, de changer ses pratiques, changer son matériel. C'est quelque chose que moi, j'ai pas eu à traverser. Moi. Donc bio, sûr. Nature, oui, parce qu'on a de plus en plus de vins nature dans notre gamme. Alors moi, quand j'écris nature sur l'étiquette, c'est nature au sens strict. Absolument aucun intrant, pas de soufre, mais pas d'ersatz non plus, et pas de soufre du tout.
D'accord.
Après, je fais aussi des vins qui sont un peu plus classiques, donc qui peuvent être filtrés et un petit peu sulfités, parce qu'on considère que dès qu'on filtre, le vin devient fragile et que c'est là qu'il faut le protéger. Mais pour autant, en général, on n'a que des vinifications qui sont très peu interventionnistes. C'est toujours en hygiène, sauf quand les fermentations devraient mal tourner. Mmh. Donc là, le fait de levurer, c'est une route de secours que je m'interdis pas.
Tu parlais également, même pour ton crément, du coup, de ne pas rajouter de sucre exogène. Est-ce que tu peux en parler un petit peu peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un essai qu'on fait depuis quelques années. D'abord, il faut expliquer comment on fait du crément. Dans le crément, il y a deux fermentations. une fermentation pour faire un vin tranquille, comme n'importe quel vin blanc. Et ensuite, on met ce vin tranquille en bouteille avec des levures et avec du sucre pour qu'il refermente en bouteille, que ça devienne un vin effervescent. Et habituellement, les producteurs mettent en bouteille le vin avec soit du sucre, qui peut être du sucre simplement de betterave, de canne, ou du sucre de jus de raisin aussi, si c'est un peu plus haut de gamme. Mais de ce fait-là, déjà, on apporte une matière exogène au vin, quitte un peu l'idée d'authenticité ou de pureté. Et puis surtout, ce qui me dérange un peu, c'est que quand il va fermenter en bouteille, le vin il va gagner à peu près 1,5 degré d'alcool. Donc de ce fait-là, le vin de base crément est souvent récolté en sous-maturité, un peu vert quoi. C'est pour ça que souvent, certains créments peuvent être un peu verts à mon goût. Et là, ce que je cherchais, c'était de faire refermenter le crément avec son propre jus de raisin. Donc de ce fait-là, de pouvoir récolter le raisin plus mûr, donc d'avoir aussi une aromatique qui soit plus large, plus épanouie dans le vin fini. Alors, on a essayé plusieurs bois, hein, parce qu'on a un côté assez aventurier.
Oui. J'ai cru comprendre. Hein. Ouais. Moi, aller au marché de Noël, vous comprendrez.
Tout à fait. On aime bien l'expérience. Non, alors, on avait essayé de pasteuriser une partie de notre jus de raisin.
Ouais.
Pour ensuite rajouter ce jus de raisin pasteurisé pour refermenter en bouteille. Alors c'était intéressant, mais c'était quand même beaucoup de boulot de pasteuriser tout ce jus. Donc on a essayé la voie du chaud, quoi, pasteurisé. Après, on a essayé la voie du froid. Donc j'ai refroidi la cuve pour qu'il garde un certain niveau de sucre, et ensuite l'embouteiller plus tard avec ce niveau de sucre.
D'accord.
Parce qu'il faut aussi préciser que pour avoir le droit à l'appellation crément, il faut que les deux fermentations soient bien distinctes.
Ah bon ?
Voilà.
D'accord.
Ce qui n'est pas le cas avec des pétillants naturels. C'est beaucoup plus simple, on peut mettre en bouteille alors que c'est en train de fermenter.
Mmh.
Donc le froid, ça marchait, mais c'était quand même assez gourmand en termes d'énergie de refroidir un tel volume quoi, pour un long terme. Et donc là, j'essaye une troisième voie qui est de garder du jus de raisin sous pression.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est des cuves très épaisses, des cuves pression. Donc le vin, il va fermenter dans ces cuves, mais au bout d'un moment, quand il y a trop de pression, les levures n'arrivent plus à fermenter, il y a trop de CO2, et donc ça bloque le vin de cette manière-là. Et donc je réutiliserai ce jus bloqué par surpression pour faire la prise de moût.
On a eu la chance tout à l'heure avec toi de faire le tour de tes parcelles et de voir toute la diversité que tu as de sol.
Et les moutons
aussi.
Ah, même de marcher leurs résidus.
Et même marcher, oui, bah oui, c'est bien pour la fortune, il paraît. T'inquiète, on a bien marché. Hein.
Exactement. Tu disais du coup que c'était intéressant d'avoir toute cette diversité, de pouvoir proposer un wrestling sur plein de sols différents. C'est vraiment là le but que tu as de mettre ce sol en avant et de pouvoir avoir ce côté un petit peu pédagogique auprès de ta clientèle, c'est ce que tu souhaites?
Tout à fait. Alors, dans mes études d'économie, ce que j'ai bien appris, c'est que pour réussir, il faut arriver à se différencier. Donc tu peux différencier entre une cuvée un peu originale, etc. Mais finalement, imaginons, on a parlé avant de mon crément qui est original, qui marche très bien. Personne n'empêchera mon voisin de finalement faire le même.
Exactement.
Libre, hein, très bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Quoi. Alors, si on veut être tranquille, il faut arriver à trouver quelque chose qui nous différencie, mais pour du long terme, qui soit inimitable. Et qu'est-ce qu'on a en Andelot qui est absolument inimitable? On a cette diversité de terroirs. C'est pour ça qu'on a trois grands crus à Andelot, mais pas que. On est un petit village charmant de vallée qui a été fondé par l'abbaye de Saint-Richard dans 1880. Donc dès qu'il y a une abbaye, forcément il y a culture de la vigne, forcément il y a aussi des écrits. Sûrement qu'il y avait déjà de la vigne avant, mais il n'y a pas d'écrits. Mais n'empêche que du coup on est sûr que depuis 1880, il y a de la vigne qui est cultivée à Andelot. Les amateurs de vin souvent s'extasient, parlent beaucoup de la Bourgogne, comme quoi c'est exceptionnel, les terroirs de Bourgogne, la sélection par les moines. C'est certainement très vrai.
Mm-hmm.
Mais disons que
on a des soucis.
On a quand même toujours des variantes entre l'argile et le calcaire.
Donc, exact.
Bon, je ne dirais pas qu'on a vite fait le tour, mais c'est quand même un peu la même trame.
Mm-hmm.
Alors que chez nous, en Alsace, on a une diversité
de sol.
Bien plus riche. Hein.
Terroir, de sol. Andelot,
on a du grès rose, on a du granit, on a du schiste recueilli par le granit qu'on appelle de la cornéenne, et on a aussi du calcaire, et tout ça sur le même village. Donc je pense que vraiment, Andelot, je fais tout pour que ça le devienne, qu'on va devenir une référence des terroirs, dans le sens où, à ma connaissance, c'est le seul endroit où on a une telle diversité de sols. Et tout ce qui est bien, c'est que c'est des collines très pures. C'est pas des des mélanges subtils, quoi. On a une colline que grès, une colline que granit. C'est parfait pour vraiment comparer l'influence de cette géologie sur le goût des vins. Pour revenir par rapport à la Bourgogne, donc chez nous aussi, on a aussi des abbayes, donc ça fait aussi depuis 1200 ans.
Oui, c'est une terre.
Des terroirs dans l'eau ont été sélectionnés, classés, nommés.
L'Alsace, c'était une région assez pieuse à l'époque.
Ah oui, oui, pendant très longtemps. Hein.
Du coup, pourquoi est-ce que tu as des moutons, Yann ?
Alors, là, il faut un peu parler de l'histoire du domaine. Mm-hmm. Alors, on n'est pas un domaine de père en fils depuis X générations, comme c'est souvent le cas en Alsace. On est relativement jeune, dans le sens où les vignes, elles viennent plutôt de ma grand-mère, mais c'est mon grand-père qui... Enfin, à l'époque, tout le monde avait un peu des vignes pour sa consommation personnelle. Mm-hmm. Chacun vivait un peu en polyculture élevage. Mais c'est mon grand-père qui a commencé à vouloir vinifier et puis vendre un peu en brague, vendre un peu en bouteille.
On est en quelle année là, à peu près, non ?
Oh, dans les années 60. Hein.
60, d'accord.
Il faut dire que mon grand-père, il faisait ça à côté. Son métier, c'était cordonnier.
D'accord.
Donc il était cordonnier plus actif. Et il était vraiment passionné par la viticulture, même la culture en général, quoi. Et donc il y a ce petit embryon, à peu près d'un hectare et demi. Et c'est à partir de là que mes parents se sont installés en 79. D'abord mon père, après même ma mère, la rejoint. Donc il a commencé à partir de ce tout petit bout, et puis c'est lui qui a vraiment monté, enfin lui c'est eux, hein, qui a vraiment monté le domaine en génération actuellement, on a 10 hectares.
Ok.
C'est vraiment une belle progression.
Donc ils ont travaillé 30 ans sur le domaine, et toi t'as repris en 2010.
C'est ça. Et encore j'ai repris, mais pour autant on travaille toujours ensemble.
D'accord, ok.
Et ils ont pu le faire. Déjà, parce qu'à l'époque, je vais dire, c'était la belle époque, dans le sens où ils sont allés voir la banque en disant, voilà, on va s'en à vie pour acheter une vigne, pas de souci, la banque leur a prêté, quoi. Aujourd'hui, c'est plus tribut, ou hein.
Je crois que c'est pas possible.
Mais aussi, parce qu'ils ont pu s'agrandir tellement, parce que, alors nous, il y avait beaucoup de terres à l'abandon.
D'accord.
Déjà, par rapport aux affres de la guerre, avant ça, du phylloxéra, comme beaucoup dans la région, quoi. Mais chez nous, particulièrement plus, parce que c'était les 70, c'était l'époque du productivisme, de l'organisation.
Ouais.
Donc les vignes qui étaient convoitées, c'était les vignes faciles à mécaniser, les vignes relativement plates. Et donc tous ces coteaux très raides, très pierreux, qui n'avaient pas d'accès, personne n'en voulait, quoi. Donc mes parents ont pu en acheter beaucoup à des prix très raisonnables. Et donc les vignes que l'on a actuellement, les trois quarts des vignes qu'on a actuellement, c'est des vignes que mes parents ont plantées. Donc c'est un vignoble assez jeune qu'on a, quoi, relativement jeune.
30 ans, c'est jeune, oui.
Alors c'est paradoxal, parce que ces vignes qui, il y a 30 ans... il valait pas grand chose et que personne ne voulait, ben aujourd'hui, je pense que c'est mes meilleurs terroirs, quoi. C'est vraiment mes plus beaux coteaux, mes sols les plus rocailleux. Donc, je suis vraiment très content de cette historique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines où souvent, quand il y a une transmission familiale, ils commencent pas à faire une cuvée.
Ouais.
Et là, ce n'est pas le cas. J'ai commencé à suivre un peu, à tout faire. Alors, à tout faire, mais un peu dans la poursuite de ce que faisaient mes parents, quoi. Après, ce qui m'a vraiment différencié, c'est quand je commençais à faire des vinatures. Déjà, c'est un raisin qui est bio, et ensuite c'est pas d'intrants. Déjà il y avait une certaine curiosité, il y avait un peu un goût par rapport à ce qu'on a découvert dans des sorties, dans des échanges. Et puis avant que moi je fasse les vins nature un peu dans mon style, donc des vins comme ça que j'embouteille trouble avec les fines, hein, mes parents avaient déjà fait quelques vins sans soufre. Ça c'était venu avec l'obligation légale d'apposer la mention qu'on tient sulfite, il me semble, dans les années 2000. Je ne sais pas précisément quelle année, quoi, 2004 par là, quoi. Et donc du coup il y a des clients qui venaient après qui disaient, ah mais tiens, maintenant c'est écrit qu'on tient sulfite, avant c'était pas, maintenant vous en rajoutez, comment ça se fait, vous n'en mettiez pas. Et donc là il fallait expliquer aux gens, bah tiens, le sulfite ça sert d'antioxydant, ça a toujours été utilisé, c'est pas forcément dangereux, tout est une question de dosage, mais quand même par esprit pédagogique et par curiosité, mon père voulait faire une cuvée sans soufre, un peu pour pouvoir montrer aux gens la différence, quoi. C'est pas forcément pour mettre en valeur l'idée de faire des vins sans soufre, mais vraiment une cuvée pédagogique, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des vins sans soufre et après à améliorer doucement le process.
Parce que ceux qui en faisaient, en faisaient déjà en Alsace, comme Daïs, comme Frick, au Sartang, on les a traités de fous.
Ah oui,
qui aujourd'hui sont des génies, hein, on va quand même se raconter. Voilà.
Non, mais c'est sûr que je pense que nous aussi, on a été vus un peu comme des fous, surtout par rapport au fait d'avoir des vignes enherbées, d'avoir des tailles originales, d'avoir les moutons, d'avoir des vins rouges, etc. Mais après, ça s'est quand même bien passé, hein, y a pas eu de soucis. Mais alors, on parlait avant de l'évolution du marché, que de moins en moins de gens qui boivent du vin, mais par contre, il y a plus de gens qui boivent de la bière. dans la bière artisanale, qui a vraiment un boom des petites microbrasseries. Et bien, toutes les microbrasseries, ils font tous des bières troubles,
ça ne
pose aucun souci. Et donc, clairement, ces néo-consommateurs qu'on va essayer de faire revenir vers le vin, ben, pour eux, ça ne pose pas de problème d'avoir des vins troubles, hein, d'avoir des vins avec l'IFIM. Et par rapport à la critique sur l'appellation nature, moi j'ai bien aimé aussi, dans le monde anglophone, l'appellation de raw wine,
oui.
les vins crus. C'est vrai que quand on commande un plat, on sait bien que le plat cru n'est pas assaisonné. Donc je trouve aussi c'est pas mal dans l'idée du vin cru. Mais aussi par rapport au fromage, hein. Donc pareil, pour des fromages au lait cru ou au lait pasteurisé, c'est un peu la même idée, quoi. Mais c'est vrai qu'en français, ce ne sera pas possible parce que le terme de cru est déjà utilisé en tant que partie passée du verbe croître, là où la vigne a cru, donc du coup les terroirs, le grand cru. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai qu'au final, pour l'instant, on ne veut pas ce qui perd de mieux que de nature, quoi. Même si j'ai aussi des collègues qui ont plutôt l'idée de vin libre.
D'un vivant, on entend.
D'un vivant aussi, oui. Mais l'idée de vin d'auteur, ça me parle bien. D'avoir une créativité et puis d'avoir un objectif quand on cultive la vigne, quand on fait le vin, et pas simplement suivre une recette d'une appellation ou d'un œnologue ou autre. Hein, parce que finalement, à ce moment-là, autant ne pas mettre son nom, vu que c'est un œnologue, quoi.
Du coup, là, on est sur le Riesling. Alors, parle-nous un peu de cette cuvée.
Alors, c'est un Riesling Grand Cru Kastelberg 2017. Le Grand Cru Kastelberg, c'est la colline centrale dans l'eau, une colline abrupte qui coupe presque le village en deux. C'est petit, ça fait 6 hectares, et il y a une géologie unique, une pierre très sombre. C'est du schiste, mais qui a été recuit par le granit tout proche. Donc ce schiste recuit, les géologues appellent ça de la cornéenne. C'est dur comme de la corne. Donc en géologie, on dit que le schiste, c'est une roche sédimentaire, ça déposait au fond d'un océan. Le granit, c'est une roche volcanique, c'est une boule de lave qui montait tout doucement. Et donc en montant, elle a poussé, recuit le schiste en place, donc cette bordure, ça a fait cette cornéenne. Et donc ce schiste qui a été retransformé, on appelle ça un métamorphisme, donc c'est une roche métamorphique. On retrouve un peu les caractéristiques de schiste, le côté minéral, très tendu, avec un petit peu des notes tanniques, un peu poivre blanc. Je trouve que sur le Kastelberg, c'est plus épicé. Il y a plus d'un côté réglisse et puis une super longueur. Hein.
D'accord.
C'est très iodé.
On va boire un canon, hein.
Ouais.
Birkin time, les bateaux. Birkin time.
Askild. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.